Bonjour, bienvenue ce matin. J'arrive pas à voir si vous souriez ou pas. Oui? Alors voilà, on va deviner. Peut-être qu'on pourrait aussi faire une fois avec un marqueur, un bon sourire sur nos masques. Comme ça, l'humeur du jour n'aura pas tellement d'importance tant qu'on a le sourire. Voilà, soyez les bienvenus. Merci à Xavier et son équipe pour la participation ce matin. Merci aussi à tous ceux qui sont engagés en bas avec nos enfants, avec les potes du dimanche et le potager. On remercie ces moniteurs, monitrices pour leur engagement. Merci aussi à la technique, à ceux qui sont là fidèlement et qui permettent aussi de voir et de vivre ce culte à distance pour ceux qui ne peuvent pas venir. C'est vrai que ces mesures sont contraignantes, mais on vit avec et puis on continue. J'accueille aussi Anne-Claude Jeunat de la mission Lèpre, ou mission évangélique contre la lèpre, avec son mari, Myrine, que nous avons eu l'occasion d'entendre déjà au mois de février, quand il nous a parlé de la HET d'Emmaüs, la Haute École de Théologie. Bienvenue ce matin. Anne-Claude nous présentera son travail, ou le travail de la mission, avec une présentation multimédia, et ensuite elle nous apportera un message. Ils sont les Jeunat participent ou font partie de la Frée de Cossonay et elles travaillent à Launay à plein temps avec la mission Lèpre. En tout cas, bienvenue et merci pour votre participation ce matin. On va parler de la lèpre. Moi, j'ai des souvenirs d'enfant. Je me souviens peut-être 10, 12 ans au Laos. Et c'est vrai que la lèpre était très présente dans ce pays. Et je me souviens encore de voir des gens arrivés seuls dans la concession ou sur la propriété où la mission était et qui venaient mendier pour de la nourriture ou pour se faire soigner. Et je me souviens de voir mes parents qui étaient là pour faire un petit test. C'était le test qu'on avait à l'époque pour essayer de dépister. On prenait un bout de papier. Nous, on s'amusait en tant qu'enfant à le faire après. On prenait un bout de papier, on bandait les yeux de cette personne. Et ensuite, on touchait ces taches ou ces endroits insensibles. Elle devait nous dire, elle devait dire où c'est qu'on avait touché. C'était un petit dépistage. Et ensuite, ces personnes étaient soit redirigées sur la léproserie que la mission avait au sud du Laos, où depuis pas mal d'années, il y avait des infirmières qui étaient actives dans ce village de lépreux et sur cette léproserie. J'ai été touché, marqué en tant qu'enfant de l'attitude de ces missionnaires qui étaient là, de leur engagement, de ces infirmières qui n'avaient pas peur de la lèpre et puis qui mettaient en action leur foi. Et ce n'était pas une foi confinée, mais c'était quelque chose qui m'a touché en tant qu'enfant. Ce que nous vivons en ce moment avec cette pandémie, il n'y en a peut-être pas grand-chose à comparer avec cette maladie ou ces maladies de la peau, entre autres la lèpre. Mais on se sent un petit peu exclu. Vous avez peut-être aussi senti une exclusion pendant ce confinement. On vous regarde bizarrement quand vous toussez ou bien quand vous ne mettez pas le masque comme il faut. Et des fois, on a changé de trottoir. Voilà, donc on arrive à sentir un petit quelque chose par rapport à l'exclusion que ces malades de la lèpre peuvent subir. La lèpre, hier comme aujourd'hui, être mis au banc de la communauté humaine et c'est porter sur soi le signe de l'exclusion. La lèpre peut être aussi autre chose que la maladie. Cette autre chose nous fait détourner les yeux, changer de regard, changer de direction, changer de trottoir et exclure l'autre, et voire nous exclure aussi. Alors ma question, quelles sont nos lèpres aujourd'hui? Pas forcément la maladie, mais d'autres formes qui excluent les autres. Anne-Claude Jeunat m'a bien dit que ça a bien changé depuis mon enfance. Heureusement, il y a eu de grands progrès qui ont été faits au niveau de la médication, au niveau des soins. Et nous allons le découvrir tout à l'heure et je me réjouis de voir cela. Vous avez vu le site internet, il est très bien fourni. Si ça vous intéresse, allez le voir. Il y a beaucoup d'informations sur cette maladie et comment on la soigne aujourd'hui. Voilà, c'était le passé, mais il y a quelque chose de nouveau. Et merci pour la présentation tout à l'heure. Je vous invite à prier pour cette ouverture du culte. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles, que je perçoive ta parole, que je l'entende avec mon cœur et que je me laisse transformer par elle. Ouvre ma bouche afin que je puisse te louer et chanter tout ce que tu as fait. Par ton Esprit Saint, rends-moi capable de redresser et d'encourager. Que mes paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison et de consolation, de libération et de réconciliation, des paroles capables de révéler des horizons neufs et de faire s'entrouvrir le ciel et de permettre à tous de saisir combien leur vie est précieuse et unique. Seigneur, merci d'être présent parmi nous ce matin et nous t'accueillons. Amen. Je vous invite à passer un petit moment dans la louange avec Xavier et nos amis. On pourra peut-être se lever aussi, hein?
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Oui, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci d'être là avec nous, de pouvoir être ensemble. Et on a envie de t'exalter ce matin, de te dire combien tu es grand, combien tu es bon. Merci pour ta grâce envers nous chaque jour, chaque matin. Ouais. Et que nous, fils et filles du roi, entonnons chaque jour ce hymne de gloire et de joie. Que célébrons son amour. Que les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Et que nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Et je vous invite à le prendre ce matin, qu'on le proclame, qu'on l'exprime. Malgré nos masques, j'essaie de vous voir transparent. Mais voilà, que tous ensemble, on le loue. En le proclamant et en disant victoire, Christ est la lumière du monde.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire
que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend son nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il a agi et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Et autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Et il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Quand un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne le connaissait plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Et dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force de puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes. Vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô béni Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son
béni Dieu, ô mon âme, ô mon âme.
Amen.
Merci. Vous vous souvenez de Jean-François Negrini et de Anne et la famille? Quand ils étaient au Bangladesh, c'était avec la mission évangélique contre la lèpre. Donc c'est un petit peu connu. Et on va en savoir plus et j'accueille maintenant Anne-Claude.
Quelqu'un disait dimanche dernier dans notre église, c'est le privilège d'être devant, c'est de pouvoir enlever son masque. Et moi, je vois un autre privilège, c'est d'être vraiment là, d'être devant vous pour pouvoir, d'une part, présenter la lèpre, présenter la mission contre la lèpre, et puis pour pouvoir aussi apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Oui, ça fait plaisir d'être là, même si quand on en a parlé avec Philippe, c'était l'été dernier, je suis venue, peut-être certains se souviennent, avec Johanna Abdou du Niger, qui a parlé un petit peu justement de son travail, de ce qu'il faisait là-bas au Niger. Et puis, comme on n'avait pas beaucoup de temps, il était question justement que je revienne pour présenter la mission plus longuement. Et donc, ça me fait plaisir d'être là. On n'aurait jamais imaginé ce qui se passait quand on en parlait l'été dernier, quand encore en début d'année, on a évoqué ce 4 octobre. Mais il y a une chose qui est sûre et une chose qui n'a pas changé, c'est Dieu. Lui le savait, lui il est là, il ne change pas et on peut vraiment compter sur lui. Et ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on est là réunis ce matin, qu'on est là ensemble pour cela. Parce que c'est lui qui nous rassemble. Alors, je l'ai dit, je suis venue l'année dernière, mais je suis venue aussi il y a 4 ans et demi, lors d'une réunion du fil d'argent, c'était en mars 2016, quand je me disais, je suis déjà allée à Mérin, et quand je regardais les années, j'ai dû remonter jusqu'en 2016, mais que le temps passe vite. Et c'est là, et un des messages importants que j'avais apporté à ces aînés, c'était qu'avec le mot lèpre, on peut faire un autre mot, perle. Parce qu'on est tous une perle aux yeux de Dieu. Et pas seulement les personnes affectées par la lèpre, mais on est tous des perles aux yeux de Dieu. Alors, il faudra juste que je vérifie de temps en temps que je sois toujours bien en accord avec ce que vous voyez derrière moi. Donc, comme je l'ai dit, j'aimerais aussi vous parler de la lèpre. Parce que pour bien comprendre ce que nous, on fait en tant que mission évangélique contre la lèpre, eh bien, c'est important de comprendre cette maladie. C'est une maladie qui est généralement liée à la pauvreté. Avec l'amélioration des conditions de vie dans nos pays, en Europe, la lèpre a disparu. On a l'impression qu'elle n'existe plus. Mais dans le monde, à travers le monde, toutes les 2 minutes, une personne apprend qu'elle a la lèpre. Et c'est catastrophique pour elle. Parce qu'en fait, tout s'écroule. Comme l'a dit Roger, il y a une exclusion. Cette maladie est considérée très souvent comme une malédiction. Alors, le monde s'écroule. Des années peuvent s'écouler entre le moment où la personne a contracté la lèpre et où les premiers signes arrivent. Alors, en fait, tout ce temps, c'est aussi un temps où elle ne se rend pas compte qu'elle a cette maladie. Et cette maladie, il y a plein de préjugés vis-à-vis de cette maladie. Et notamment, elle n'est pas aussi contagieuse que ça. Parce que si on pense que le temps d'incubation peut durer 10 ans, voire plus, on serait tous infectés par cette maladie. On ne comprend pas pourquoi. Il y a une avancée, comme l'a dit Roger, maintenant il y a un traitement qui est là. Mais en fait, on ne comprend toujours pas exactement comment elle se transmet et on ne sait pas pourquoi, mais 95% de la population est immunisée naturellement. On ne comprend pas, mais voilà, c'est ce qui fait de la lèpre. La lèpre va entraîner des pertes de sensibilité, des pertes de mobilité, les gens ont de la peine à ouvrir leurs mains, utiliser leurs mains. Donc il y aura des conséquences physiques. Les membres deviennent insensibles, là où il y a des taches, c'est aussi insensible. Ils ne se rendent pas compte s'ils se font du mal, s'ils vont se blesser. Donc des plaies vont apparaître, elles vont s'infecter. Et puis, elle affecte aussi les nerfs et les muscles vont s'atrophier. Elle entraîne une exclusion et du désespoir. Les gens sont complètement dévastés. Comme c'est une maladie qui fait peur encore, les gens ont peur de l'attraper, mais aussi le personnel soignant a peur de diagnostiquer cette maladie et de prendre en charge ces personnes-là. Donc voilà, donc en fait, les conséquences sociales sont souvent bien plus graves que les conséquences physiques, comme le disent souvent les personnes qui en sont affectées. La santé, selon l'OMS, c'est le complet bien-être physique, mental et social. Moi, je rajoute spirituel. Et donc, en fait, la lèpre, voilà, le puzzle est bien fait, mais la lèpre va tout bouleverser. Notre rôle, c'est de pouvoir aider les personnes à reconstituer leur puzzle, comme il est là. Donc, on a une mission. Nous sommes inspirés par l'exemple de Jésus. Comment Jésus avait cette attitude envers les personnes affectées par la lèpre du temps où il était sur la terre. Une mission internationale active dans plus de 30 pays, des pays de soutien comme la Suisse ou des pays de mise en œuvre de projets. Et donc, on a en Suisse, on soutient des projets dans 5 pays. Le Niger, Congo, RDC, Inde, Bangladesh et Népal. Alors voilà, ça doit suivre. Voilà. Et puis là, voilà, les 5 pays qu'on soutient. Donc on est un membre autonome d'une alliance qui représente donc cette mission internationale. Donc on n'est pas directement lié à la mission internationale, on est autonome. C'est un peu une fédération. Cette mission internationale. Mission Lèpre en Suisse existe depuis 115 ans. On apporte une aide médicale et on va aussi aider les personnes à s'intégrer dans la société. Comme on a vu qu'elles sont souvent stigmatisées, discriminées, exclues de leur communauté, on va les aider à être réintégrées. Voilà. Et là, par exemple, on a aidé cet homme à avoir une petite épicerie. On lui a octroyé un microcrédit. Mais pour que les gens puissent venir acheter dans cette petite épicerie, il est important que de faire de la sensibilisation. Parce que ce n'est pas tout pour lui d'avoir des choses à vendre. Si personne ne vient les acheter, il n'aura pas de travail. Voilà, la lèpre peut être traitée, comme je l'ai dit, depuis le début des années 80, il y a un traitement efficace qui est là, et puis les médicaments sont mis à disposition. Mais les ravages qu'elle a faits, les handicaps, le manque de sensibilité, cela reste. Et il est important d'expliquer aux gens qu'ils doivent continuer à prendre le médicament, même s'ils ne voient pas que la maladie est traitée. Parce qu'en fait, ils ont toujours les conséquences qu'ils voient. Et puis, c'est important pour eux aussi de bien faire attention à ces membres insensibles. Donc, voilà. Et s'il y a des handicaps, on va aussi opérer les membres, par exemple les mains en griffe, pour qu'ils puissent à nouveau bien utiliser leurs mains. On va sensibiliser la population. Comme je l'ai dit, ça, c'est une part qui est très importante. Parce qu'en fait, les gens vont pouvoir mieux accepter. Alors, bien sûr qu'une image comme celle-là, dans certains pays, en raison de la pandémie du coronavirus, c'est plus possible. Et c'est ça qui est aussi grave, c'est qu'en fait, on alliait ces campagnes de sensibilisation avec des campagnes de dépistage précoce pour éviter que les gens n'aient la maladie pendant des années et développent des handicaps, mais qu'ils soient pris en charge le plus tôt possible. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut plus avoir ces grandes campagnes et donc ça devient aussi plus compliqué. Et donc, il y a moins de personnes qui sont dépistées. Ça ne veut pas dire que la maladie a régressé. Ça veut dire qu'on n'a pas pu aller pour les dépister. Donc ça, c'est aussi un sujet qui nous concerne et qui nous inquiète aussi. Donc, il y aura de plus en plus de gens qui vont développer des handicaps sans qu'on puisse les dépister. Les personnes affectées par la lèpre, Voilà. Sont constitués aussi en groupe pour s'aider aussi, pour retrouver un réseau social, pour s'encourager, parce que ce n'est pas toujours évident de prendre soin d'un membre dont on n'a aucun stimuli. Le cerveau, en fait, il pense qu'il n'existe pas. Donc, en fait, prendre soin, éviter les blessures, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et aussi, les gens se constituent en groupes qui sont enregistrés auprès du gouvernement et ils peuvent recevoir des subventions et des aides du gouvernement. Dans certains pays, certains ont été aidés lors de cette pandémie de coronavirus, pour recevoir de la nourriture, des produits de première nécessité. Mais donc, il faut qu'ils soient aussi constitués en groupe pour pouvoir être reconnus par le gouvernement. La maladie affecte des personnes, mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'elle affecte toute la famille. Même des jeunes qui n'ont pas la lèpre vont ne pas pouvoir suivre une formation parce que leurs parents ou leurs grands-parents avaient la lèpre. Donc en fait, on a des centres où on va aussi dispenser des formations professionnelles, les aider à trouver un travail pour qu'ils puissent avoir un travail et sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté. Et puis, comme j'ai dit, les problèmes émotionnels sont souvent plus importants que les problèmes physiques. Donc, on va soutenir ces personnes moralement et aussi spirituellement. On voit ici la personne responsable de la relation d'aide à l'hôpital Nandaban au Népal qui prie avec une patiente. C'est souvent les gens qui demandent pour qu'on puisse prier pour eux. J'aimerais vous parler de Nagamal. Alors, vous verrez un petit film sur Nagamal, mais j'aimerais juste vous expliquer. Elle a été mise de côté, exclue de sa communauté, de sa famille aussi. Elle s'est retrouvée à vivre toute seule. Et un jour, un collaborateur de Mission Lèpre est venu dans le village. Il a entendu parler d'elle. Il est venu la voir. Et puis, il a pris soin de ses blessures. Elle avait des ulcères assez importants. Il a pris soin de ses blessures. Elle a été tellement émue que quelqu'un ose la toucher parce qu'elle avait été rejetée par toute sa famille. Et puis, il l'a emmenée à l'hôpital où on a pris soin de ses plaies. On l'a opérée aussi. Et puis, on lui a donné aussi des chaussures adaptées pour l'aider à marcher. En fait, le personnel lui a manifesté l'amour de Dieu. Cet amour si grand, si puissant, qui peut tout bouleverser, eh bien, ils lui ont manifesté. Et puis, elle avait entendu parler de Jésus, ce Jésus qui, du temps de la Bible, il avait touché des personnes affectées par la lèpre. Et là, elle a vraiment réalisé qu'elle pouvait développer une relation avec ce Jésus. Et pour elle, c'était vraiment important. Elle dit maintenant, je prie plusieurs fois par jour. Et même je prie pour mes voisines, pour les gens qui m'entourent, s'ils me le demandent, je prie pour eux. Donc voilà l'histoire de Nagamal.
C'est un film qui a été fait par Mission Lèpre Australie. On a mis les sous-titres, mais normalement, il y a du son. C'est toujours comme ça. On a essayé au début du culte, ça marchait très bien. On voit comment la lèpre, comment aussi toutes ces ulcères qui se sont infectés. On a dû amputer ses doigts et on voit ce que ça donne. Après, elle n'a plus qu'un moignon pour, en tant que main. Donc, c'est vraiment aussi très handicapant. Si ça ne marche pas...
support of a loving husband while I was going through treatment. I was 18 years old when I first noticed patches on my face. But then things got worse. My hands and feet became deformed. The doctors told me it was leprosy. I had never heard of leprosy before. Life was difficult, but I had the support of a loving husband while I was going through treatment. He was my rock in times of struggle. At this time, I frequently cooked for my elderly mother. Sometimes I would burn myself and not even realize because I was losing sensation in my hands. Then my ulcers got worse. My toes and fingers needed to be amputated due to infection. I was no longer able to do anything for myself. As the leprosy got worse, the love and support of my husband meant everything to me. But unfortunately, his family didn't see it the same way. He told me he was going away to look for work. When I begged him to stay, he assured me that he would come back home. But I knew we had no future together. The pain of leprosy weakened my body, but the pain of abandonment crushed my spirit. Then one day, there was so much rain, more than I had ever seen in my life. I waited for someone to come and rescue me from the goat shed where I was staying. As I waited, my ulcers became infected from the dirty flood waters. For 4 days and 4 nights, no one came to help me. I felt so alone. A few days after the flood struck, an educated man from another village approached me as I was seeking refuge from the water. I couldn't remember the last time someone was happy to see me. He wasn't afraid of my leprosy. The man told me he was from the leprosy mission. He looked at my ulcers and bandaged my wounds. It was as if Jesus himself had come to visit me. After the flood, they took me to the Leprosy Mission Hospital. Every day they cared for me, feeding me and helping me wash. They performed surgery on my arm. After rehabilitation, I could eat, cook, and even clean for myself. Now, I am fully independent. I never imagined that while I was in hospital, they would reconstruct my home, which was severely damaged by the floods. Now I have a place that is perfect for my needs. The Leprosy Mission equipped me with the skills I needed so that I could advocate to the government for my human rights. Finally, for the first time in my life, I now have access to electricity, just like my neighbors. I feel like I am a part of society now, that I am just like everyone else. There used to be nights when I could not bear the thought of living for another day. But now, my life is transforming. I have become a person of hope.
Merci à la technique. Donc, je vous invite à passer au message. Et comme je l'ai dit, ce qui nous inspire, en fait, c'est l'attitude que Jésus avait envers les personnes affectées par la lèpre. Et je vous invite à lire un texte où il est question de personnes affectées par la lèpre. Il s'agit du texte de Luc 17, les versets 11 à 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 hommes ayant la lèpre vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, s'en retourna, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « N'était-il pas 10 à être purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé personne pour revenir donner gloire à Dieu, mis à part cet étranger ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va. » Ta foi t'a guéri. Voilà le texte que j'ai choisi. Ce texte est souvent utilisé pour mettre l'accent sur le fait qu'il faut être reconnaissant, qu'il faut dire merci. Oui, c'est important, mais moi j'y vois un autre aspect et je vous invite à parcourir ce texte et à découvrir un autre aspect. Le contexte du temps de Jésus, les personnes affectées par la lèpre étaient exclues. On l'a vu, c'est encore le cas aujourd'hui dans certains pays. Donc, ils ne pouvaient pas avoir accès à la vie sociale, à la vie religieuse. Ils ne pouvaient pas aller au temple. Et puis, la lèpre était perçue comme une malédiction. On ne sait pas... Il faut que je fasse attention parce que j'ai l'impression que... Chaque fois que j'appuie, ça ne marche pas toujours. Donc là, ça revient en arrière. Voilà. On ne sait pas trop comment, mais ces hommes avaient entendu parler de Jésus, du fait que ce Jésus faisait des miracles. Ils l'appellent maître, donc ils reconnaissent son autorité. Ils savaient des choses sur Jésus. Et donc, ils viennent vers Jésus, mais ils se tiennent à distance. Ils gardent les distances. Il y avait des règles. Ils n'avaient pas le droit d'approcher les gens de trop près. Ils devaient crier « impur, impur » pour éviter que des gens ne soient en contact sans le vouloir avec eux. Et donc là, ils gardent leur distance. Comme on le voit sur cette image, Jésus ne s'impose pas. Il ne va pas vers eux, il ne va pas faire un pas de plus pour les toucher. Il l'a fait dans d'autres textes, mais là, il garde la distance. Ces hommes voulaient maintenir une distance, Jésus respecte. Et en fait, ces hommes, oui, ils ont prié, ils ont crié à lui, « Aie pitié de nous !» Mais ils sont restés loin de Jésus. Ils voulaient que Jésus fasse quelque chose, mais ils ne voulaient pas forcément le rencontrer. Et donc, on le sait, est-ce qu'il y a... Oups, ça va trop vite, tout à coup. Voilà, ce qui inspire notre logo, c'est justement l'histoire que vous pouvez lire dans Luc 5, par exemple, de cet homme qui vient au pied de Jésus et Jésus le touche. Et avant de le guérir. Donc on voit cette différence. Ces hommes-là ne voulaient pas être touchés, ils voulaient garder la distance. Alors Jésus les envoie vers le prêtre, parce que c'est lui qui posait les diagnostics, c'est lui qui décidait, le prêtre, si en fait une personne était pure ou impure, si elle pouvait revenir au temple ou pas. Donc Jésus les envoie selon la loi, selon ce qu'il était exigé par la loi, il devait aller se montrer au prêtre. Et donc il les envoie et ces hommes vont partir. Est-ce qu'ils sont guéris? Non. On voit que pendant qu'ils étaient en chemin, ils sont purifiés. Donc, ils ont eu cette foi que Jésus peut guérir même à distance, parce qu'ils étaient prêts à y aller voir le prêtre. Jésus leur a dit « Allez vous montrer au prêtre » et ils ont obéi à Jésus. Et alors, un homme va revenir. Je ne sais pas trop où j'en suis. Alors, voilà. Un homme va revenir et Jésus va poser la question, mais où sont les autres? À qui Jésus pose-t-il la question? Il faut essayer d'imaginer un petit peu le contexte. Quand Jésus se déplaçait, il était avec ses disciples, les 12, mais on sait qu'il y en avait bien plus que 12. Il y avait la foule et généralement, il y avait les chefs religieux. Et pour moi, Jésus interpellait les chefs religieux quand il a posé cette question. Où sont les 9 autres qui ne sont pas revenus? Alors, les chefs religieux auraient pu dire, eh bien, ils sont vers le prêtre. Ils ont obéi, ils obéissent à la loi. Ils ont obéi à ton ordre, Jésus. Jésus, tu leur as demandé d'aller. Ils sont allés. Et puis, ils vont observer le rite de purification. Tout va bien. Ils observent la loi à la lettre. Tout est parfait. C'est bien. Mais un homme revient. Cet homme désobéit. Jésus avait dit, allez vous montrer au prêtre. Lui revient. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Il ne va pas jusqu'au bout. Il désobéit à Jésus. Waouh! Et pourtant, c'est lui qui fait juste. Comment se fait-il? Celui qui désobéit à l'ordre de Jésus, c'est celui-là qui fait juste. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire aussi aux chefs religieux? Mais pourquoi cet homme revient? Eh bien, d'une part, parce que c'est un Samaritain. C'est un étranger, il n'a pas le droit d'aller au temple. Il n'a pas le droit d'aller se montrer au prêtre. Donc, il n'a nulle part où aller. Et puis, et c'est surtout ça pour moi qui fait qu'il revient. Il a réalisé qu'il était purifié. Ses yeux se sont ouverts. Et alors, vu que ses yeux se sont ouverts, il ne pouvait que retourner vers Jésus, celui qui l'avait guéri à distance, mais il l'avait guéri. Donc, il ne pouvait que retourner vers lui pour le louer. Et vraiment, c'est là pour moi, c'est comme une conversion. Il allait jusqu'au moment où il a réalisé ce que Jésus a fait dans sa vie et il a fait demi-tour et il est revenu à Jésus. Mais c'est aussi pour moi parce que, comme j'ai dit, il voulait le louer, il voulait le remercier, il voulait avoir une relation avec Jésus. Il le connaissait un petit peu, il savait des choses sur lui, mais il voulait développer cette relation avec Jésus. Donc pour moi, c'est le récit d'une rencontre. Cet homme a vraiment rencontré Jésus. Il n'est pas resté à distance. Il s'est jeté aux pieds de Jésus quand il est arrivé vers lui. Et donc il était là. Et donc pour moi, c'est ça, cette rencontre qui bouleverse tout, qui change toute la vie. Oui, on peut être en contact lointain avec Jésus. Il ne va pas s'imposer. Mais si on décide de le rencontrer, d'aller vraiment à sa rencontre, alors il est là et il nous accueille. Jésus, dans ce texte, est en train de montrer aux chefs religieux, mais à nous aussi, qu'en fait, obéir simplement comme ça, sans être en relation vraiment avec lui, avec Dieu, ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de développer cette relation. Et que de par cette relation que l'on a, de par le fait qu'on le rencontre lui, eh bien, on obéisse à ce qu'il nous demande de faire. La loi est importante, mais la relation avec Dieu est primordiale. Et c'est ça qui va rétablir aussi, nous rétablir aux yeux de Dieu, avoir cette relation, réaliser ce que Jésus est en train de faire dans nos vies, ce qu'il a fait pour nous, nous convertir, faire demi-tour et revenir à lui. C'est ça qui est important. Comme je l'ai dit, cet homme s'est jeté aux pieds de Jésus. Jésus lui a dit « Ta foi t'a guéri ». Oui, mais comme on l'a vu, hein, les 9 autres avaient aussi un peu de foi. Parce qu'au moment où Jésus leur a dit « Allez vous montrer au prêtre », ben, ils y sont allés. Et ils y sont allés parce qu'ils pensaient bien qu'ils allaient être guéris. Parce que, ben, en fait, c'est vrai, ils n'avaient rien à perdre. Mais ils ne veulent pas y aller en se disant « Ah non, on ne peut pas y aller, on attend d'abord qu'on n'ait plus nos tâches, qu'on puisse sentir à nouveau ». Et puis après, on verra si on y va et tout. Non, ils avaient cette foi en la parole de Jésus. Mais Jésus l'a dit seulement aux Samaritains, « Ta foi t'a guéri ». Pourquoi ? Parce qu'il l'a dit dans le sens « Ta foi t'a sauvé ». Oui, c'est le seul qui a compris vraiment que la guérison n'était pas que physique, mais elle est aussi spirituelle. Et c'est le seul qui a été guéri, qui a retrouvé cette relation, où la relation avec Dieu, avec Jésus, a été rétablie. Et puis, il est dit aussi, « Lève-toi, va ». On voit que cet homme s'est jeté aux pieds de Jésus, et à un moment donné, Jésus lui demande de se lever et d'aller. Oui, il y a un temps où on est aux pieds de Jésus, il y a un temps où on prend du temps avec le Seigneur, on est à ses pieds, et il y a un temps où il nous demande de nous lever, d'aller, d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc voilà ce que Dieu nous demande aussi à nous, de pouvoir marcher dans l'obéissance, mais cette obéissance qui découle de la relation avec lui. Parce que ce qui est primordial, c'est d'être en relation avec lui et de pouvoir aller là où il nous demande d'aller, tout en étant en connexion avec lui, en relation avec lui. Alors, je nous invite ce matin à développer cette relation. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Jésus, avec Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais vous êtes en chemin. Dieu est en train d'agir dans votre vie. Lui rendre gloire, c'est reconnaître ce qu'il fait dans votre vie. C'est le laisser agir. Voilà ce que cet homme a fait. Mais vous, vous pouvez aussi le faire. Réaliser qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie aujourd'hui. Pouvoir le laisser faire et grandir dans cette relation. Pour terminer, j'aimerais vous laisser le verset de 2 Pierre 3,18. Progressons sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, que nous progressions dans cette connaissance. Parce que plus on le connaît, plus on a envie de passer du temps avec lui. Plus on a envie de le rencontrer, de développer cette relation avec lui. C'est ce que je vous souhaite. Amen.
à continuer à méditer avec cette musique et puis ce qui nous a été dit. Et que deux ou trois, soyez libres de vous exprimer à haute voix. On va laisser le masque, mais parlez fort qu'on puisse vous entendre.
Nous n'avons pas la lèvre, mais nous avons besoin.
Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. Nous allons faire un petit peu différemment. Je vais vous lire une prière qui me parle pour l'envoi, pour repartir. Et ensuite, on aura les annonces après cette prière d'envoi. Merci à Claude d'être venu parmi nous et nous avoir apporté toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever et ensuite on se rassera pour les annonces. Seigneur, merci pour ces moments où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. Merci pour ces moments où pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurons bien envie de planter nos tentes et de nous installer là, près de toi, loin de ceux qui souffrent et qui doutent. Toujours à nouveau, tu nous appelles. Et nous avons du mal à repartir. Tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous mettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et Johan a quelques petites annonces. Je vous remercie aussi pour votre générosité. On a eu le colloque vendredi et c'est vrai que c'était très encourageant de voir vos dons. Et nous sommes en avance, c'est peut-être la première fois dans l'histoire de notre Église que nous sommes en avance de ce qui est planifié pour la fin septembre. En tout cas, merci. Merci de continuer. Il y a aussi une petite corbeille à la sortie ou faites-le comme vous faites d'habitude. Merci beaucoup.
Bonjour à tout le monde. Alors, trois petites annonces. Déjà, juste un petit compte-rendu très rapide et succinct du colloque où Salina a été élue à une large majorité. Donc, on peut encore la féliciter. Ensuite, oui, Denise.
Je voulais juste, au nom du GRRP, vous remercier tous de la confiance que vous nous avez faite et de la confiance que vous faites dorénavant à Célina en tant que pasteur. Bienvenue, Célina, en tant que pasteur de notre communauté.
Deux autres annonces. Le caté qui continue vendredi. Donc pour les 11-15 ans, entre 18h45 et 21h. Et puis une annonce concernant les paquets de Noël. Donc il était décidé de maintenir cette action, presque cette mission. Et c'est Anne-Marie Wenger et Annick Dubost qui s'en occupent. Donc cette année, c'est un tout petit peu différent. C'était un peu adapté par rapport aux mesures. Et l'idée étant plutôt de faire une collecte. Et puis, c'est un groupe qui ira acheter la nourriture et les différents produits qui composent les paquets. Donc, il y a cet effet des boîtes qui sont soit juste là à la sortie ou dans le foyer quand vous arrivez. Vous pouvez déposer un peu d'argent. Grosso modo, le prix d'un paquet pour enfants et pour adultes est respectivement d'environ 30 et 35 francs. Ça vous donne un petit peu ce que représente un paquet avec tout ce qu'il faut acheter pour les compléter. Et ensuite, Anne-Marie et Annick formeront des groupes, notamment avec les potes. On aura l'occasion de faire ces paquets d'ici le mois de novembre. Le 8 pour les potes, et puis peut-être il y aura aussi des groupes d'adultes pour confectionner ces paquets. Il y a aussi sur la table qui est en bas, quand vous sortez par le rayon inférieur, des petits sachets avec de la laine, comme c'était l'habitude de faire jusqu'à présent, simplement que c'est dans des petits sachets, ça évite que tout le monde touche les pelotes de laine. Pour ceux qui veulent faire des écharpes ou des gants ou des bonnets, je ne sais plus exactement ce qui est prévu dans le paquet, mais c'est sur la table qui est en sortant en bas. J'ai terminé pour les annonces.
Aussi cette brochure que vous avez trouvée sur la table, n'hésitez pas à la prendre.
J'aimerais juste expliquer, c'est vrai que j'ai oublié en fait, parce que généralement quand je viens dans une église ou que je visite un groupe, j'ai une table avec des cartes, avec des livres à vendre, et puis ben, pour les mesures que l'on connaît, ce n'est pas possible cette fois-ci. Donc vous avez un échantillon ici, vous pouvez regarder, vous pouvez faire votre commande. Et m'envoyer sur la commande au bas ici, ajouter Merin. Parce que les cartes, quand je viens, elles sont 3 francs et pas 4 francs. Et puis en fait, ben voilà, vous aurez un prix en particulier si vous faites une commande suite à ma visite aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, il y a d'autres modèles aussi sur le site, donc allez voir sur le site. Et puis bien entendu, il y a le calendrier. Alors cette brochure était pour cette année, mais bien entendu que si vous commandez un calendrier, vous aurez celui de 2021. Donc ce n'est pas celui-là, mais c'est le prochain. Donc voilà. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vers moi, je prendrai votre adresse et puis vous pourrez recevoir un petit journal qui paraît 3 fois par année. Merci.
Voilà, bon dimanche à tous.